Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Parcours de rêve, émission réalisée et animée par des élèves de collège et de lycée. Chaque semaine, nous recevons un invité qui vient nous raconter au micro son parcours extraordinaire de passionné. Un invité qui avait peut-être un rêve qu'il a fini par réaliser. De quoi donner aux élèves des idées sur leur orientation, sur leurs projets et les rendre parfois un peu plus concrets. Aujourd'hui, nous recevons Alexis de Clisson, qui a 30 ans. Après avoir travaillé quelques années dans l'immobilier, il a changé de vie. Il a peut-être réalisé un rêve, celui de devenir psychopraticien en thérapie brève. Bonjour Alexis.
Bonjour Ambline.
Bienvenue.
Merci.
Merci de venir nous raconter ton histoire, ta reconversion.
Avec joie.
Je salue également mes jeunes co-animateurs de cette émission. Salut Lucas.
Salut.
Bonjour Diane.
Salut.
Et puis bonjour Madeleine.
Bonjour Ambline.
Toutes les deux, c'est votre première émission de radio et la première fois que vous parlez dans un micro d'ailleurs.
Oui.
Pas trop de stress ?
Ça va.
Tout petit peu. Mais notre invité aussi, c'est la première fois qu'il s'exprime.
La première fois, tout à fait, oui.
Ça va bien se passer. Comme d'habitude, honneur aux plus jeunes pour poser la première question. Lucas, c'est toi le plus jeune de l'émission, à toi.
Vous l'aurez compris, dans cette émission, on parle de rêve. Alors Alexis, quel est ton rêve quand tu étais jeune et que tu avais mon âge, 14 ans?
Alors quand j'étais jeune et que j'avais 14 ans, quel était mon rêve? Écoute, c'est difficile à dire, je pense que j'avais envie d'être sportif de haut niveau, tennisman. Si je pouvais gagner Roland-Garros, ça m'allait bien. Donc rien à voir avec aujourd'hui, quoi.
Rien à voir, on en parlera. Comment es-tu passé du tennis à la psychothérapie brève? Il y a peut-être un lien, on en parlera tout à l'heure.
Pas tant de lien que ça, bien que je suis de la psychothérapie comportementale, enfin c'est de la thérapie brève, mais je fais de la préparation mentale aussi, donc peut-être que... À travers ça, j'ai avancé aussi avec la préparation mentale pour sportif de haut niveau.
On écoute tout de suite une chanson qui te plaisait quand tu étais petit. T'avais sûrement l'âge de Lucas, 14 ans. On écoute Roxane de Police.
Days are over. You don't have to sell your body to
C'était Roxane de Police, chanson choisie par notre invité, le psychopraticien en thérapie brève, Alexis de Clisson.
RCF Bordeaux, Omblin de Fournou.
Alexis, dans quel lieu travailles-tu la journée ?
En fait, moi je travaille en cabinet, donc je reçois les gens dans ce cabinet-là, et après on travaille sur ce qu'ils veulent travailler, donc ça peut être absolument, ça touche tous les styles, tous les domaines. C'est-à-dire que moi je suis psychopraticien en thérapie brève. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une psychothérapie comportementale qui vise les troubles du comportement, donc par exemple les stress, les angoisses, les phobies, les peurs, les troubles alimentaires, les troubles sexuels, le burn-out, voilà, toutes ces, même les dépressions. Voilà, le but c'est de travailler avec les personnes sur ce qui leur pose un vrai problème dans la vie, quoi.
Et tu travailles dans l'immobilier du coup, et quelle formation as-tu dû faire pour arriver à ce métier de
psychopraticien. Alors effectivement, je travaille dans l'immobilier tertiaire à Paris. Et en fait, j'ai un peu switché de métier. Tout simplement parce que déjà, je ne me reconnaissais pas forcément dans ce métier-là. Ça ne correspondait pas forcément à mes valeurs. Mais ça, j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte. Parce que l'immobilier, c'est un métier où on peut très bien gagner sa vie. Et moi, l'argent, ça me plaisait pas mal en sortant d'école. Mais en fait, ce n'est pas ce qui me faisait lever le matin, quoi. Mmh. Et donc, je me suis dit... ça va pas, il faut que je trouve quelque chose qui me permette de me réveiller, d'être content d'aller bosser. Et là, c'était pas vraiment le cas. Et en fait, en changeant de travail, j'ai décidé de prendre un peu de temps entre deux sociétés et je me suis formé à l'hypnose. Donc, j'ai fait une école d'hypnose, une hypnose thérapeutique et aussi de la street hypnose, d'hypnose de rue, un peu comme ce que fait Mesmer. Le but, c'est d'avoir toutes les palettes en hypnose, savoir comment ça se passe, est-ce que ça fonctionne vraiment, est-ce que c'est du cinéma, voilà. Moi, j'avais envie, c'était plutôt par culture générale, je me suis intéressé à ça. Et quand j'ai commencé cette école, je suis un peu tombé de haut parce que j'ai adoré, j'ai rencontré des gens différents de ce que je connaissais avant dans l'immobilier ou dans mes écoles. Vraiment un autre univers, et du coup, j'ai voulu découvrir d'autres styles de thérapie. Donc, j'ai commencé par l'hypnose, j'ai fait de la PNL, de la programmation neurolinguistique, j'ai fait un équivalent de l'EMDR qui s'appelle les MAP, mouvement alternatif pluriel. Donc, c'est des mouvements des yeux pour tout ce qui est stress post-traumatique, par exemple. Et ensuite, j'ai voulu approfondir. Donc, je me suis formé en Belgique, au Luxembourg, et j'ai appris donc des techniques thérapeutiques comme thérapie stratégique, thérapie narrative, thérapie solutionniste. Donc, pour avoir un maximum d'outils pour m'adapter le mieux possible à la personne, en fait. Et en parallèle, je me suis aussi formé à la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau, mais aussi pour des gens qui ont un objectif à atteindre. Voilà, comme un concertiste, même quelqu'un qui a une présentation à faire et qui ne se sent pas forcément très à l'aise, quoi.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir
psychopraticien.
Psychopraticien, pardon.
Et qu'est-ce qui m'a... En fait, je suis un peu... j'ai pas vraiment choisi dans le sens où j'ai commencé par l'hypnose, j'ai adoré, j'ai voulu poursuivre. Donc j'ai mis de plus en plus en stand-by mes entretiens pour continuer dans l'immobilier. Je me suis formé, j'ai vu qu'il y avait avec l'hypnose au départ une vraie possibilité d'aider des gens dans mon entourage qui avaient des angoisses, qui étaient stressés au travail. Et avec l'hypnose, je me suis dit, mais il y a déjà un moyen facile de les aider, quoi. Et pourquoi pas en faire profiter un maximum de personnes. Donc c'est pour ça que j'ai continué à me former. Et à un moment donné, je me suis dit, mais il faut utiliser ces outils pour aider les gens parce que c'est trop dommage d'avoir peur des ascenseurs et d'être au 80e étage d'une tour à la Défense, quoi. Ça nous gâche la vie, alors que parfois, en quelques séances, ça peut être vraiment facile, réglé, quoi.
Quand on parle de thérapie brève, ça veut dire quoi, thérapie brève ?
Une thérapie brève, c'est une psychothérapie comportementale. Donc, psychothérapie brève, c'est là où ça se différencie d'une psychothérapie classique ou d'une psychanalyse, c'est par la durée. C'est-à-dire qu'on a constaté en général, c'est une moyenne qui a été faite, en moins de 10 séances, on arrivait vraiment à atteindre les objectifs fixés par la personne. Voilà.
Donc par exemple, arrêter de fumer.
Arrêter de fumer, ça peut se faire très rapidement, je l'ai parfois fait en une seule séance. Voilà. La seule condition pour que ça avance, on va dire bien, c'est que la personne soit très motivée, c'est ça.
Faut que ça se pérennise ensuite.
Faut qu'elle soit motivée. L'hypnose, c'est pas magique, ça serait trop beau et trop facile, mais ça permet vraiment un gros coup de pouce pour trouver des solutions et aider la personne à atteindre ses objectifs, quoi.
Et est-ce que tu t'es spécialisée du coup dans une pratique particulière, parce que tu parles de l'hypnose?
Alors, je me suis pas spécialement spécialisée, mais j'ai plutôt voulu travailler plusieurs styles de thérapie pour vraiment m'adapter à la personne. Donc, parfois, je vais faire un petit peu d'hypnose, mais même de l'hypnose conversationnelle. Donc, la personne ne va même pas forcément se rendre compte qu'on fait de l'hypnose. Les gens ont souvent une vision un peu erronée de l'hypnose, parce qu'il faut savoir que c'est un état qui est naturel. Donc, parfois, on me dit, mais moi, je suis pas réceptif. Tout le monde est réceptif, puisque c'est naturel. C'est comme quand tu dors, c'est comme quand tu es réveillé, mais tu as aussi l'état d'hypnose. C'est un peu quand tu as la tête... voilà, tu as un peu la tête dans les étoiles, tu conduis ta voiture et en fait, tu passes les vitesses sans t'en rendre compte. Tu vois, tu lis un bouquin, mais tu penses à d'autres choses, mais pourtant tu lis consciemment et tu es incapable de te rappeler de ce que tu viens de lire. Ça, c'est un état d'hypnose. Ça peut être très léger. Voilà. Et donc moi, j'utilise toutes ces techniques en switchant, en fonction de ce qui me paraît le plus judicieux pour la personne et pour l'aider.
C'est pas bizarre. Par exemple, vous êtes dans le bus... Et tu vois plein de gens, par exemple, qui ont des tics ou qui... Enfin, il y a plein de façons de se comporter. Et toi, t'as pas... Enfin, ça doit être un peu fatigant de tout le temps analyser ce qui se passe. Est-ce que t'arrives à te poser le cerveau?
C'est important comme question parce qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est justement pas vouloir aider les gens qui n'ont pas forcément envie d'être aidés. Quelqu'un qui a un toc, qui tourne, qui ferme 5 fois sa voiture pour être sûr qu'elle est bien fermée à chaque fois. Mais est-ce que ça le gêne? Bah, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être que... ça lui convient. Moi, si ça lui convient pas, je vais pas l'aider à s'en passer si c'est quelque chose qui lui va, quoi. Donc, mon but, c'est vraiment de travailler avec une personne qui a envie de travailler. Donc, faut qu'on se trouve l'objectif ensemble, qu'on travaille dessus et qu'on essaie de l'atteindre.
Quand cette personne fait appel à toi, elle est consciente de ses problèmes et elle a vraiment envie de les régler et rapidement.
Alors, en théorie, oui. En pratique, pas forcément. Pourquoi? Parce que, typiquement pour arrêter de fumer, est-ce que c'est lui qui a envie d'arrêter de fumer ou est-ce que c'est la femme de ce monsieur qui dit écoute, t'es gentil mais ça sent trop fort, moi j'aime pas la cigarette, donc va voir un hypnotiseur, il va te faire arrêter. Là c'est plus compliqué parce que ça vient pas forcément de lui, donc après on travaille, on va essayer de voir comment on peut, il y a quand même des techniques pour travailler avec ça, mais c'est les gens qui viennent, ils ont consciemment parfois envie et inconsciemment pas forcément envie de le faire.
Et quel âge ont tes patients et pour quels problèmes spécifiques ils viennent? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers, enfin, qui reviennent souvent ou ça? Alors, dépend, c'est très varié.
C'est vrai que quand je me suis lancé là-dedans, je pensais que comme c'est un peu la mode, l'hypnose en ce moment, on parle beaucoup de ça pour la cigarette notamment, je pensais que j'allais avoir pas mal de personnes sur ce sujet-là. Et en fait, pas tant que ça. J'ai plus eu des gens, au début, beaucoup sur les troubles alimentaires, des gens qui voulaient perdre du poids, parce qu'on peut penser que c'est que via un nutritionniste, par exemple, effectivement, ça peut être intéressant, mais c'est souvent aussi psychologique. C'est-à-dire qu'on peut compenser avec la nourriture, comme avec plein de choses. Et du coup, on peut travailler ça. J'ai eu pas mal de clients qui sont venus pour ça. Après, j'ai eu, en ce moment, par exemple, c'est le retour des fêtes. Je vais avoir des gens qui sont angoissés d'aller au travail, des gens qui sont un peu à deux doigts du burn-out. Donc, je vais avoir des gens qui ont peur de parler en public, des gens qui sont stressés d'être en public, d'être regardé par les gens, de prendre la parole. Donc c'est vraiment très vaste, il n'y a pas de sujet particulier. Ouais, je n'ai pas de sujet de particulier.
C'est toi qui règles leurs problèmes ou c'est eux?
Non, moi je ne règle pas de problème puisque chaque problème, chaque solution, je n'ai pas les solutions pour les personnes. Moi je les aide juste en fonction de leurs ressources et c'est là où mon travail est là. Il essaie de leur montrer, de leur faire prendre conscience qu'ils ont des ressources et comment les retrouver. Et c'est avec ces ressources qu'eux vont pouvoir traverser leurs angoisses, traverser leurs peurs et affronter leurs émotions. Parfois, les gens vivent un deuil, ils vont utiliser plein de tentatives de solutions en contournant, en regardant pas les photos, en essayant de pas y penser. Et du coup, ils mettent de côté cette émotion qui est au fond, elle est au fond de cette émotion. Et du coup, moi, mon travail, c'est de les aider à affronter ça, d'accepter cette émotion pour qu'elle puisse ensuite partir, en tout cas, l'aspect qui les gêne puisse partir tranquillement, quoi.
On dit souvent que parler, ça fait du bien, mais est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui avaient peur de parler de leurs problèmes, même si elles le voulaient?
Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que parler d'un problème, ça réveille des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réveiller des émotions qui nous font mal. Donc c'est souvent... ça peut faire peur, ça peut angoisser. C'est comme une blessure. Si tu veux une blessure, tu te coupes la main. Si ça va s'infecter, ça va... faire une croûte, mais qui ne sera pas saine. Là, en faisant un travail, on va assainir cette plaie. Donc ça fait mal, on travaille, mais le but c'est qu'après ça te soit une jolie cicatrice, quoi. Que tu puisses regarder sereinement.
Est-ce que tu peux donc nous expliquer à quoi consiste une de tes journées type ?
Comme je te disais tout à l'heure, je fais de la thérapie brève. La thérapie brève, c'est une thérapie qui est sur une durée un peu plus courte, on va dire, qu'une psychothérapie normale ou une psychanalyse. Donc pour l'instant, comme je viens d'arriver à Bordeaux, il y a en septembre, je dois me faire connaître. Je dois me faire connaître parce que je rencontre un maximum de médecins, des diététiciens, tous les gens qui sont amenés à procurer du bien aux gens, des ostéos, des kinés, pour me faire connaître. Donc le matin, j'essaie de me faire connaître, de travailler en parallèle avec les médecins, les psychiatres, etc. Je travaille en plus mes cours, je travaille mais je lis, je lis des articles, je me renseigne toujours pour être vraiment à la pointe de ce que je fais. Et à l'après-midi, en général, je consulte. Donc je reçois mes clients et on travaille.
On fait tout de suite une petite pause avec une deuxième chanson choisie par toi, Alexis. On écoute Angie des Stones.
Remember all those nights we cried.
C'était Angie des Stones, chanson choisie par notre invité Alexis de Clisson.
Parcours de rêve. RCF Bordeaux.
Alexis, tu es donc psychopraticien. Est-ce que tu veux bien nous expliquer la différence avec psychologue, psychiatre ?
Alors, c'est un peu différent, puisqu'un psychiatre, déjà, c'est un médecin. Donc, en général, il travaille avec des médicaments, avec des antidépresseurs, il peut prescrire, ce que je ne peux pas faire, et ce qu'un psychologue non plus ne peut pas faire. Un psychologue, ce n'est pas vraiment le même cursus. C'est-à-dire que c'est 5 ans d'études. Moi, je me suis formé dans des écoles qui nous permettent d'apprendre des techniques thérapeutiques. Un psychologue qui fait que de la psychologie, c'est pas vraiment le même métier en fait. C'est-à-dire qu'un psychologue, il peut travailler dans des écoles, il peut travailler à faire des diagnostics peut-être. Moi, mon métier, c'est plutôt de faire du one-one avec une personne, c'est-à-dire faire une séance de thérapie avec une personne et d'utiliser les outils que j'ai, toutes les techniques que j'ai apprises pour l'aider à travailler son problème.
Et est-ce qu'il existe plusieurs types de thérapie comme la thérapie par caméra sur ordinateur ?
Alors effectivement, là, ça se développe pas mal, la thérapie par webcam, par Skype, etc. Moi, je l'utilise pas trop parce que j'aime bien être en contact avec la personne. Je me fie beaucoup au langage corporel, donc la façon dont bouge la personne. Quand elle parle de ses tracas, ben, en fait, on se rend compte qu'il y a son épaule qui va bouger comme ça, dès qu'elle parle d'un sujet. Donc là, ça, c'est intéressant de le voir. Par webcam, je trouve que la relation avec cette personne-là, elle est différente. Moi, elle me gêne, mais certains le font. Et si ça marche, c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Moi, j'aime pas forcément travailler comme ça, sauf cas d'urgence, auquel cas je peux le faire, mais c'est pas mon idéal.
Comment vous faites avec les cas, en quelque sorte, pas graves, mais bien atteints, quand même avec la meilleure volonté du monde, leurs tics ou quoi, eux, ne les dérangent pas, mais les profs ou d'autres personnes, ça peut les déranger. Comment vous procédez ?
Alors moi, comme je disais un petit peu tout à l'heure avec la cigarette, c'est-à-dire que la personne vient me voir, si c'est sa femme qui me l'envoie, mais l'homme, c'est pas forcément son problème, c'est le problème de sa femme en réalité, et pourtant c'est lui qui vient me voir. Pour les gens qui ont des tocs, mais que si ça les gêne pas, il n'y a pas de problème en fait. Le problème, c'est eux qui le déterminent, est-ce que ça les gêne dans leur vie courante, peut-être que ça les gênera plus d'enlever ce toc, peut-être que ça va leur procurer plus d'angoisse de pas faire ce toc.
Peut-être que ça les gêne dans leur relation avec les autres aussi. Parce que du
peut-être,
coup,
ils... peut-être. Et c'est pour ça que s'ils veulent travailler dessus, ok, on travaille. Mais moi, je veux travailler avec des gens qui ont envie. Je ne vais pas leur forcer, leur dire pourquoi dès que tu bois, tu claques 3 fois ton verre sur la table, c'est pas bien. Fait. Non, si ça ne le gêne pas, eh ben ça ne le gêne pas.
Si tu n'avais pas connu l'hypnose, quel aurait été ou quel est ton autre domaine favori dans le métier que tu pratiques ?
Bah, l'hypnose, en fait, je la pratique, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que je parle beaucoup, j'utilise des techniques thérapeutiques comme la thérapie stratégique, solutionniste ou narrative, ou même la PNL, la programmation neurolinguistique, où on met en place des exercices, des protocoles qui permettent de retrouver des ressources qu'on pensait avoir, parfois ne pas avoir ou avoir perdu, et lever des blocages. Et du coup, on peut avoir un échange plus traditionnel et pourtant très efficace, quoi. Et l'hypnose, ça, c'est parfois en saupoudre. On met juste un petit peu d'hypnose, sans parfois même que la personne s'en rende compte. Par des métaphores, par des négations, c'est des techniques de langage. En fait, l'hypnose, c'est une sorte de moyen de communication.
C'est une sorte de discours entre deux personnes en faisant des feintes pour parler.
C'est ça. En fait, l'avantage avec l'hypnose, c'est que tu contournes le conscient pour atteindre l'inconscient. Donc l'avantage, c'est que le conscient ne s'en rend pas toujours compte.
Il faut savoir parler.
Malheureusement, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci.
Merci à notre invité, le psychopraticien en thérapie brève. Moi, j'arrive à le dire. Alexis Clisson. Merci également à nos jeunes animateurs. Bravo Madeleine et Diane pour cette première émission. Merci Lucas.
À de rien.
Bravo à toi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne écoute sur RCF Bordeaux.